Interview.
Manu.
Oui.
Salut à toi.
Bonjour les garçons.
Manuel Pinault, alors il est écrit que tu viendrais du 44.
C'est vrai.
Soit de Nantes. Donc on va commencer par parler de ça. Et puis après on dira d'autres choses. Qu'est-ce que tu nous proposes toi ici sur ce salon?
Alors je propose 3 vins blancs secs et un rouge. Tous ces vins, c'est des vignes que je travaille, moi, là-haut. Et le premier blanc, c'est un cépage qu'on appelle chez nous la folle blanche. Cépage qui fait le gros plan du pays nantais.
Tu peux lécher ta glace en même temps, hein,
ouais.
N'en perds pas.
Hein. Voilà, ça ne fait pas d'interférence.
Non, non.
Les deux autres blancs, c'est des melons de Bourgogne. Le melon de Bourgogne, c'est le cépage qui fait le muscadet. C'est des vins qui sont issus de... On est monocépage, il n'y a pas d'autres assemblages avec d'autres cépages. Et puis après, pour le rouge, c'est Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon. Sur la même parcelle, il y a les deux cépages. Donc c'est des vins nature. Et c'est mon dernier millésime, puisque en fait, c'est le millésime de l'année dernière, le 2021, où j'avais gelé à 70%, mais comme un peu partout en France. Et voilà, et donc c'est mon dernier millésime, puisque je m'installe dans la Drôme... cette année, sur 2 hectares pour commencer, puisque j'en avais 3 là-haut, donc 2, je vais être à peu près sur ce que je connaissais déjà avant. Et avec des cépages tout nouveaux pour moi, puisque Muscat Petit Grain et Clairette Blanche, ce sont des cépages que j'ai jamais vinifiés, jamais travaillé même sur les parcelles. Mais bon, voilà, je récupère des super vignes qui étaient faites par Cyril Copier, un super vigneron du coin. Et voilà, et l'aventure continue.
Alors, juste pour revenir un peu sur ce que tu travaillais avant, t'es parti là-dessus dans quelles circonstances? C'est quoi ton parcours avant d'être de la glace plein le nez? C'est quoi ton parcours pour en arriver au vin nature et à récupérer ces vignes-là?
Moi, je fais du vin depuis, pour moi, depuis 8 ans. Je me suis installé il y a à peu près 7-8 ans. Et avant, j'ai fait des études dans le vin et j'ai appris mon métier. Mes parents n'étaient pas... vignerons, ils sortaient de petites fermes, mais ils sont partis travailler à la ville, dans le Val-de-Loire. Hein. Moi, je suis ligérien, en fait, on habite à côté de la Loire, donc c'est comme ça qu'on dit. Et donc voilà, donc moi, après un cursus scolaire, aussi bien en dents de scie au niveau des notes que éclectique, en dents de scie, je veux dire, dans plein de domaines différents, voilà, j'ai fait... J'ai repris après avoir arrêté la fac, peu de temps après j'ai passé un BTS Vitiono et après j'ai travaillé partout où je pouvais aller, où on m'acceptait.
Dans des caves du coup là.
Cave coop, vigneron indépendant, chambre d'agri, bon bref, un peu partout. Puisqu'en fait il fallait s'ouvrir les mains quoi, savoir connaître son métier. Et voilà, et on apprend toujours, mais la dernière fois où j'ai travaillé avant de me faire mon vin... C'était dans la région de Chinon, enfin exactement à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, au domaine du Mortier. J'ai les frères Boisard qui on s'entendait déjà très bien et c'est vraiment des gens qui travaillaient le vin comme j'avais vraiment envie de le travailler finalement. Et donc ils m'ont fait confiance, ils m'ont vraiment ouvert un tas de choses. Donc en revenant à Nantes, le seul truc que j'avais pas fait c'était mon vin et il s'est trouvé que j'ai pu récupérer une parcelle de village. Et puis voilà, l'aventure commence comme ça, avec très peu, et puis finalement, on arrive à sortir des fruits, il se passe que ça fait du vin, que les copains aiment bien, et puis on commence à le vendre, et voilà, donc je ne me suis pas installé tout de suite sur 3 hectares, j'ai travaillé à côté, donc j'ai diminué mon temps de travail progressivement pour pouvoir m'installer, c'est la façon dont moi j'ai fonctionné, donc ça met du temps, mais un peu comme le vin finalement, on ne fait pas du vin en 15 jours.
Tu veux qu'on fasse une pause glace? C'est en train de dégouliner un peu.
Allez, pause glace.
T'as le ton du mec qui perd sa glace. Ça s'entend à la radio. Que tu passes un mauvais moment.
La tension, putain.
Mais c'est l'avantage du montage, c'est qu'on peut faire une pause.
Oh, vous ferez bien ce que vous voulez. Bah oui, RDY, j'écoute à fond. Hein.
cool.
Depuis que t'es là, t'écoutes
Hardiwa. Bah ouais, hein. J'écoute RCF et Hardiwa, quoi.
Ah ouais, cool.
Pourquoi, bon, RCF, c'est juste parce que il y a des reportages qui me font marrer.
Non, non, mais c'est bien, hein. Ils nous hébergent, notre pylône et tout, c'est cool.
Ah,
hein.
Mais honnêtement, content, hein. Bon, à part, enfin bon, après, chacun aime ce qu'il veut, mais j'y vais pas pour des raisons ésotériques, mais c'est assez détendu comme radio finalement. Quand t'écoutes, tu vois, les reportages, tout.
Alors, elle est gérée par une association, RCF, qui est basée à Valence. Ouais. Chaque RCF
ouais, exact.
A finalement une association derrière. Il y a un programme national. Mais...
Et ils forment du monde aussi. Moi, j'ai un pote, il est arrivé de Mauritanie.
Ah ouais.
Voilà, il est arrivé, il voulait faire de la radio, il a toqué là-bas, ils ont ouvert la porte. Quoi.
Mais ouais.
De la radio, quoi.
Ouais, ouais.
Voilà.
Ils
ouais,
ont
ouais.
un très bon programme sur les prisons à RCF voilà. Valence, d'ailleurs.
Et vous ? Enfin, Hardiwa aussi. Mm. À fond pour. Tout. Alors, je n'ai pas été voir sur le site si j'avais des grilles de programme. Pour avoir
oui.
Toi sélectionné, enfin sélectionné ou pas, mais savoir quand est l'émission tombe, ouais. L'émission métal, tout ça, moi j'aime bien. Ou rap, j'aime bien, hein, c'est sympa, on écoute des trucs.
Eh ben merci pour eux, parce que tout ça c'est des bénévoles. Hein.
Ben ouais, non mais c'est vraiment cool. Hein.
Alors Manu, comment s'appelle ton domaine là-bas, comment s'appelait-il
mon domaine éponyme, Manuel Pinot.
Voilà, je t'ai pas fait chier.
Non. Non, non, parce que en fait, on peut donner le nom qu'on veut, à part, t'as des réglementations, tu peux pas appeler château si t'as pas une espèce de tour dans le truc et tout. Mais après, t'as, voilà. Moi, je me suis dit, mon nom, ce sera pas par ego, juste comme ça, parce qu'après, les vins que je fais, l'idée, c'est. Enfin, je me fais du vin, c'est le goût de l'endroit où les vignes poussent. Donc en fait, mon nom, il est tout petit sur l'étiquette, c'est pas moi qui mis en avant, c'est l'endroit. D'où est issu le raisin?
Le terroir.
Voilà, c'est ça.
Ouais, donc en fait, chaque cépage va avoir le nom de son.
En théorie.
Le clos de je sais pas quoi, le domaine voilà. De Trucmuche.
Le nom du cadastre.
Ouais.
Bon voilà. Y a des petites subtilités, parce que vu qu'on fait. Je fais du vin de France, je demande pas d'AOC. En fait, on.
Pourquoi?
Bon, pour plein de raisons. J'ai pas le niveau. Et puis après, il y a toute la problématique. Une AOC, c'est une bonne idée, c'est une bonne chose. C'est issu de choses intéressantes, mais depuis des années, malheureusement, ça ne correspond plus à ce que ça veut dire. Enfin, pour moi, en tout cas.
Du coup, c'est une question de liberté pour toi.
Ouais, bien sûr.
C'est se libérer de ne pas être dans l'AOC.
Ouais, voilà, en fait, nous, on fait des vins nat. Alors, c'est sûr qu'il peut y avoir des défauts, mais après, le problème, c'est que. On se fait goûter sur des tables quand on veut mettre la marque, cette fameuse AOC là. Et si on est on se fait souvent rebouler parce qu'on est atypique. Mais on met rien d'autre que du jus de raisin dans nos bouillons. C'est bien aussi de faire évoluer nos mentalités, donc on peut aussi se dire bon bah, on met une cuvée quand même, voilà, pour essayer de faire bouger un petit peu les règles, les codes, tout. Voilà.
Et donc à partir de quand les mains dans la clairette et dans le muscadiwa, c'est quand que ça commence réellement là? Là, prochaine vendange.
C'est déjà commencé, moi okay. J'ai taillé les vignes là.
D'accord, t'as taillé les vignes, t'avais pampré.
J'ai traité.
T'as eu chaud.
Oui.
Fait bon dans le diwa, dans les vignes, alors dans ces muscats qui poussent trois fois au pampre.
Ouais,
c'est comment?
Ouais, bah c'est bien chiant.
C'est chiant, hein. Parce que...
Ça te change par rapport au pays nantais.
Tous ceux que je vois qui viennent d'ailleurs, dès qu'ils découvrent le muscat ici, ils adorent.
Ouais.
Ils disent, non,
c'est vrai.
Trois passages en bio, c'est magnifique.
Ouais, ouais, t'es là, tu te dis purée. Mais bon, il y a d'autres avantages, quoi. Il y a moins de.
Ah, pour que tu nous expliques, quand tu étais là-bas à Nantes, tu vinifiais où, dans quelles conditions? T'avais une cave?
Oui, j'avais un bâtiment, un grand garage. Et en fait, chez nous, à la différence d'ici, les vignerons, ils vinifient leur vin. Ils peuvent vendre après à des négociants s'ils veulent. Enfin,
il n'y a jamais de cave cop, quoi, c'est ça que tu veux dire?
Il y en a très peu. En fait, c'est. Voilà. À la différence d'ici. Il y a peu de vignerons qui vigneronnent.
À part à Barsac, qui est le village résistant où il y en a le plus, je crois.
Exactement.
C'est vrai.
Mais sinon, oui, c'est.
Voilà, donc moi, je faisais comme ça. Donc, t'as tout ton petit matériel de cave et puis.
Donc, c'est un matériel de cave que là, tu peux déplacer parce que ici, c'est pareil. Tu fais quoi? Tu vas trouver un bâtiment.
Voilà, donc là, je vais louer un bâtiment sur Saint-Romand. Et je vais descendre tout mon matériel de cave. Cuve. J'avais pas. Voilà, c'est pas des énormes quantités, mais bon voilà. Et je vais tout descendre ici, puisque Mathéo, ce que je connais. Et qui fonctionne, qui a toujours fonctionné.
Qui est là.
Qui est là, je vais pas. Voilà.
C'est-à-dire, tu pourrais nous dire, c'est avec quel type de volume tu travailles là?
Les années où tu gèles pas, moi je travaillais sur 3 hectares, tu fais un peu plus de 100 hectos. Voilà, c'est 12 000 bouteilles, c'est bien. Enfin, c'est bien, ça fonctionne si tu les vends et au prix que tu veux les vendre, mais. Après, et en travaillant tout seul, tu t'embauches au moment des vendanges et éventuellement aux mises en bouteille. Mais sur 3 hectares, tu à deux bras, tu les fais quoi. Il faut y aller, mais bon, ça se fait.
Ah ouais, tu fais tes 3 hectares, tu faisais tout.
Ah ouais, ouais.
Ton épamprage tout seul.
Bah oui, 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 oui. C'est un boulot de moine à la base, hein. C'est...
Non, alors là, c'est clair que tout seul, tu y passes du temps quoi. Enfin, bah,
si tu peux finir, tu recommences.
Oui,
c'est
mais
ça, non c'est ça.
Ouais, mais enfin, nous, ce qu'on connaît comme modèle ici, c'est ils sont pas non plus aussi en train de vinifier, quoi. Ou enfin.
Non, non, mais.
Bah ouais, ouais, c'est. Bon, après, je dis pas que ça peut pas évoluer, hein. Je. Parce que ça, ouais, voilà, tu, comme tu dis très bien, tu finis une tâche, t'en recommences une autre dans la foulée. Et puis après, quand tu vinifies, bon, ça, en théorie, ça te prend qu'une partie de l'année. Mais après, faut le commercialiser. Donc
là aussi t'es tout seul.
Ouais voilà. Alors maintenant bon bah avec les années tu peux avoir des gens qui te prennent du. Enfin t'as ton réseau commercial qui est un peu mis en place. En France, à l'export, tu peux avoir des agents qui travaillent pour toi. Moi je vais rarement sur Paris, donc je travaille avec André qui lui achète, qui est grossiste, qui m'achète un quantité, puis c'est lui qui le dispatche dans les petites rues en sens unique là-bas. Parce que moi j'y vais pas.
Ce que tu produisais à Nantes, donc là on peut sur ce salon nature en fait une dernière fois probablement déguster ces produits là.
La dernière fois, ou alors
t'as plus de stock
à la maison quand.
Si il te reste des stocks après le gel, ouais. Quand même.
Bah j'ai tout le 2021, enfin le 20, ça paraît beaucoup mais en fait non, c'est 30% de la récolte, donc c'est vraiment peu. Et voilà, et après, ce qui se passe, c'est que vu que je suis pas le seul dans ce cas-là, ça se sait, tout le monde sait qu'il y a peu de vin, donc tout est déjà un peu précommandé finalement. Ce qui est bien pour nous, hein.
Oui. Bon.
Donc ces bouteilles-là, on va pas rentrer trop dans le détail puisque bah, c'est fini. C'est quoi l'avenir de ces vignes et éventuellement de ce domaine là-bas, enfin de ces.
L'avenir, c'est. Alors, moi j'avais pas tout en propriété, donc les 3/4 étaient loués, donc elles reviennent à leur propriétaire et elles sont elles sont refaites par d'autres vignerons. Voilà, elles sont pas abandonnées. Et le peu que j'avais en propriété, c'est loué par un autre vigneron qui lui aussi les fait, au moins pour un an. Et après, l'avenir, je les vendrai en fait. Je vais pas leur garder des terres là-haut.
Voilà, et donc, maintenant tu débarques sur les terres de Cyril Copier, qui travaille avec la cave indépendante Côté Cairn et qui est en train de se séparer d'une partie de sa production pour un changement de vie, on peut le dire. Ça sera l'occasion d'ailleurs de le dire, parce que beaucoup de gens pensent que Côté Cairn est en train de fermer, mais pas du tout. Mm-hmm. Mais donc, il y a une partie de ces vignes que toi tu récupères,
oui.
Avec l'idée... De justement pas faire de la clairette ou autre chose.
Voilà.
Donc tu as le cépage muscat petit grain et le cépage clairette. Mmh. Qu'est-ce que tu proposes? Dans quoi tu vas te lancer?
Eh ben je vais. Donc oui, je vais pas faire de la clairette de Die parce que je sais pas faire. Et puis donc je vais reproduire mes pratiques que je faisais là-haut. C'est-à-dire je vais espérer faire du vin blanc sec. Ça veut dire que tous les sucres soient fermentés pour que ce soit stable. C'est le gros enfin, ça peut être un problème quand tu as des sucres qui se trimballent et que tu veux pas mettre de soufre pour les tuer, du moins tuer les bactéries ou les levures.
Pour rester un vin nature, quoi.
Pour rester dans l'esprit des vins naturels. Après, bon, si, dans les cas ultimes, bon, faut pas s'empêcher de l'utiliser. Moi, je suis pas un
ayatollah
du sans soufre, mais bon, bref. Et donc, l'idée, je pars sur des blancs secs, tranquilles, voilà, pas effervescents, peut-être un pétnat éventuellement, accessoirement. Des macérations, voilà. Mais vraiment.
Qu'est-ce qu'on fait comme vin blanc sec avec le muscat petit grain?
Ben, j'en sais rien. On verra.
Moi, j'ai goûté des choses ici un peu liquoreuses.
Ouais, ben voilà. S'il reste des sucres, s'il y a une acidité qui est un peu absente, ça fait mou, ça fait.
C'était surtout les années de vendange vraiment belles, avec une belle saison, une vendange saine et profusion.
Ouais.
Et où le quota était rempli, il en restait.
Ouais.
Et certains s'amusaient après chez eux à faire.
Ouais, voilà,
choses,
c'est ça. Voilà. Donc après, effectivement, ma région d'où je viens, c'est plutôt des blancs secs tendus, on dit vifs, où l'acidité, elle est quand même un peu présente. Bon, ce qui est propre à la région, mais aussi au cépage qui, voilà, qui... bon bah ici on va voir quoi, moi je vais découvrir.
Oui mais c'est très particulier parce qu'effectivement tu pars dans découvrir quelque chose dont ici en vérité on peut quand même le dire quoi. C'est que le muscat petit grain n'a jamais été mené au bout de sa fermentation pour en faire un vin blanc sec.
Non.
Et donc
je vois personne le faire. On le commercialisait quoi, j'ai déjà vu en faire. Comme je te disais
Ça donne des trucs assez approximatifs.
On s'amuse, on fait des trucs pour nous. Mais j'ai pas souvenir de quelqu'un qui a essayé de commercialiser ça.
Non.
C'est quoi le pourcentage muscat avec les raids que tu as à peu près en surface?
En fait, en surface, c'est 2/3, 1/3.
Ok. 2/3 muscat, 1/3 les raids.
Voilà. Et après, c'est un taux de sucre énorme. Certes, si c'est pas tout fermenté, en sucre résiduel, qui peut rester. Mais après, en parlant avec Cyril pas mal, en fait, on s'aperçoit que les vendanges. Bon après on est dans l'esprit de faire une clairette de 10 quoi, donc il faut qu'on garde du sucre, il faut que l'on...
Voilà, donc on les récolte à 12-13% de sucre.
Bah, récolter avant.
Aussi. Mais souvent c'est récolté avant, moi les parcelles que j'ai récupérées, finalement c'est souvent plus des 10,5-11.
Oui.
Et c'est très bien. Finalement, voilà. Nous là-haut, chercher du degré pour du degré. Faut pas dire des choses un peu trop fortes, mais l'alcool c'est pas le truc le plus valorisant dans le vin, quoi.
Non. Alors on sait que la clairette blanche donc vient plutôt du sud de la France et qu'elle est traitée déjà comme un vin blanc sec dans le sud de la France, pas de problème. Mais le muscat, c'est petit grain, c'est une vraie question.
Après, si t'as beaucoup de sucre, effectivement, arriver à tout faire fermenter, souvent c'est impossible. T'as 16 degrés potentiel, souvent ça s'arrête à 13-14 parce que les levures elles meurent dans leur milieu alcooleux, là, il se passe plus rien. Donc là, effectivement, ça te fait du degré, du fort, je sais pas, les muscats de Rivesalt, les trucs,
voilà,
et encore, c'est peut-être même pas les muscats petits grains là-bas, mais bon, bref. Donc, l'idée c'est récolter. Aller, ne pas aller chercher des surmaturités, surtout pas quoi. Et puis probablement assembler avec de la clairette qui sera plus douce. Enfin, je veux dire, moins forte en alcool, avec une vivacité. Voilà, le truc, souvent ce qui se passe, c'est qu'on fait bien ce qu'on peut avec ce qu'on a. Avoir des idées, on peut imaginer faire des trucs, mais souvent il faut beaucoup de technique, un peu d'expérience, du matos. Bon, moi j'ai tout sauf ça.
Mais par contre, je pense qu'ici tu vas pouvoir trouver. Je pense qu'autour tu vas pouvoir trouver des anciens qui vont pouvoir. Ça va leur rappeler des choses.
Ouais, voilà, c'est voilà. Ça. Souvent,
dans
c'est ça. Dans
l'échange et dans l'expérience. Ouais, oui, mais avant, mais quand on faisait comme ça. Et,
Là, les premiers vins que je sortais, c'est exactement ça. Les anciens. Ah ça me rappelle sous le pressoir chez grand-père, tu vois. Alors bon, tu te dis ok, et c'était bon, ça te plaît? Ouais. Alors c'est sûr, c'est différent, on s'habitue à un tas de choses. Vraiment, c'est... Je me mets pas la pression, pour le moment.
Pourquoi t'es venu ici? C'est trop perso.
Non, non, pas du tout, j'ai rencontré ma femme.
C'est quand même perso.
Bien sûr, c'est que cette raison-là, c'est le meilleur avocat, c'est l'amour, c'est ça.
Bon. Chouette.
C'est tout. Donc, voilà, là, ma compagne, elle avait sa maison ici, dans un super beau coin. Moi, là-haut, je vivais plutôt dans une ferme en tout collectif, dans un super mobilhome, mais voilà. Bon, soit on montait là-haut, elle bossait plutôt autour de l'élevage et tout ça, des brebis. Bon, Nantes, voilà, ça c'est fait. Bon, moi, ici, il y a des vignes, ok, bon, voilà, on change. On part au sommet, on recommence tout. Ou du moins, c'est d'ailleurs, je continue en fait, finalement. C'est plus.
Voilà, t'embarques ta marque et tu vas.
J'embarque ma petite personne,
expérience.
Voilà.
Et donc, et tu comptes sur le fait que peut-être justement tes clients déjà habituels suivent un peu.
Oui. Ouais, la bouée, c'est ça. C'est que commercialement, ils sont au courant, ils sont super contents.
Ils
ont trop envie de me suivre, comment ça? Mais oui, dans ce coin-là, on connaît. Il y a trop peu de gens qui en font. On attend trop ça. On va venir te voir. Voilà. Donc, bon, bah,
et puis
bien.
On en parle depuis tout à l'heure, tu vas sortir quelque chose d'assez inédit.
Inédit, et voilà. Du coup ça va être la découverte pour toi, pour nous, c'est chouette. Enfin vraiment, du
ouais,
coup,
bah, vraiment. On verra, il faut espérer que ça soit. Après on n'est pas assuré du résultat, on verra bien. Hein.
Et tu parlais tout à l'heure d'appellation, ici il y a une appellation, c'est les Coteaux de Die,
ouais.
Qui ont justement le droit de faire que du blanc. Est-ce
c'est
que ça.
Ça
va t'intéresser de, ouais, de rentrer
peut-être,
dedans?
Ouais, peut-être, ouais, peut-être. Parce qu'on est. J'en parlais avec un autre collègue et effectivement il y a.
Une appellation très très peu.
Rikiki,
ouais, ouais. Donc, quasiment personne qui en fait. Ouais.
Et ben voilà, et ben pourquoi pas. Moi j'ai toujours fait du vin de France, mais je suis pas contre, comme on disait tout à l'heure, de mettre un pied dedans et de dire bah tiens, est-ce qu'on peut pas sans déboulonner ou révolutionner, parce qu'on révolutionne rien du tout finalement. Donc ouais, ça me plaît bien. En plus, ça sonne bien comme nom, je trouve ça joli. C'est, en plus, c'est des vrais coteaux, Adi. Bon bah, why not.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est quoi ton rêve ou...
Bah que ça continue, hein. Tout ce qui m'arrive, c'est choisi, donc et ça se passe bien. Donc voilà, ça, que, pourvu que ça dure.
Bon allez, où on te retrouve alors? Où est-ce qu'on va te trouver du coup nouvellement, tes éléments de com?
Tu récoltes cette année, t'as
septembre,
quelque chose qui peut sortir
en mars, avril 2023, si tout va bien. Et après, où est-ce qu'on me trouve? Oh bah, Jaja Culture.
Très belle réponse. Eh ben on va se quitter en musique, tiens, t'as envie d'écouter quoi? Ou t'écoutes quoi dans ta cave ou
Ah j'écoute plein de choses, je sais pas, là comme ça, les Ramones, j'ai envie d'écouter ça.
Parfait, superbe. Et eh ben merci beaucoup.
Merci Manuel Pinault donc, à suivre chez Jaja Culture en local.
Et puis très bientôt, ici dans le coin.
Ouais. Allez, merci les gars.
Salut.
Ciao.
I wanted to go to the city.